Je vous ai déjà dit qu'on se trouve un petit peu face à une tentative semblable à celle du deuxième siècle après Jésus-Christ, ou face donc à la doctrine du Christ naissante dans l'Église. Toutes les gnoses, religions, mythologies se sont réunies, se sont rassemblées, notamment sous l'influence donc des synagogues, mais pas seulement sous l'influence des synagogues, pendant tous les continents connus, utilisant d'ailleurs pour sa robe Alexandrie essentiellement, et pour faire face, j'allais dire, à cette espèce de religion chrétienne qui prenait tous les intellectuels, tous les gens intelligents. Alors il fallait sauver la philosophie, il fallait sauver la gnose, il fallait sauver toutes ces grandes traditions archaïques, égyptiennes, etc. On se trouve face à un phénomène semblable, sauf que c'est pas la doctrine chrétienne qui met en danger la synarchie. Hein? C'est pas toi qui mets en danger la synarchie, parce qu'on est quelques-uns seulement, vous savez. Il faut en finir avec le christianisme. Mais voyez, par exemple, bon, on verra ça une autre fois, mais par exemple, un ancien martiniste, le vicomte Léo de Machéville. Le martinisme, c'est une espèce de loge initiatique gnostique qui plonge ses racines dans des choses qui sont elles-mêmes des résurgences de développement gnostique, qui sont réapparues comme ça. Au bout de 4 siècles, ça revient. La Rose-Croix, notamment. Et martiniste, c'est cousin germain avec la morgue, vous savez, la gnose rosicrucienne. Donc un martiniste très connu, Léo de Machéville, Yéel, de son nom kabbalistique, est devenu le Swami Sevananda et parcourt en roulotte l'Amérique du Sud pour regrouper autour de Jésus et de Gandhi réunis, comme à l'hôtel du Bon Pasteur et de Gambetta réunis. Oui, dans tout ça, il y a toute une liste dans ce livre que j'ai sur tous les gnostiques occidentaux qui sont devenus des gourous hindous. Parce que c'est la même doctrine. Il y a des tas de petits rapprochements très intéressants à faire. D'ailleurs, dans les. Pas oublier par exemple que Bergson était quelqu'un qui était complètement imprégné par l'hindouisme. Et réciproquement, Bergson va très très fortement influencer Sri Aurobindo dans l'ashram de Pondichéry. Il y a donc dans la gnose et dans l'hindouisme des mélanges, ils ont la même doctrine. Ou alors, vous allez avoir par exemple Durkheim, qui est complètement hindou. Durkheim a un rôle très important au niveau de doctrine dans le New Age, par exemple, Nouvel Âge. Dans les communautés du Nouvel Âge qu'il y a en France, c'est vraiment un des plus grands penseurs que tous doivent lire, c'est Durkheim. Durkheim, Durkheim. Bon, tout ça, c'est pour faire comprendre que quand on parle de l'hindouisme, on va saisir des clés, des principes qui appartiennent à toutes les exercices spirituels, humains, mystiques et cérébraux qu'on fait faire à des gens qui sont dans les loges. Mais, et que vous connaissez, parce que tous, vous connaissez plein de gens qui sont là-dedans. Et donc, il faut comprendre ce qu'ils vont vous dire, qu'au fond, on est une étincelle du divin. Au fond, chacun d'entre nous, nous sommes une étincelle de Dieu. Et que notre but, c'est de remettre cette étincelle dans le feu de Dieu et disparaître en lui éternellement. On n'est qu'une étincelle de Dieu. Oui, excusez-moi, vous avez quelque chose à dire.
Alors, j'avais entendu dire que personne à la fin de sa vie, tout à fait à la fin de sa vie,
oui, tout à fait.
Enfin, il n'était pas très loin de.
Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai signalé à propos de l'éthique l'année dernière que c'était un très grand penseur. Hein, je vous ai signalé les livres qu'il a fait, l'évolution créatrice, qui est assez hindoue, hein, l'évolution créatrice, ça s'entend d'ailleurs, et puis les deux.
Lui-même a évolué jusqu'à presque en catholicisme.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un juif. Hein,
oui,
hein, c'est pour ça qu'au niveau éthique religieuse, il est très, très, très intéressant, notamment dans ces deux sources, la religion et la morale. Et c'est devenu quelqu'un, il a compris que l'éthique était quelque chose sur quoi on pouvait s'appuyer à la fin. Il était beaucoup moins panthéiste à la fin. L'évolution créatrice, c'est très panthéiste. Hein. Panthéiste, ça veut dire que Dieu est le tout. C'est la même chose.
Mais Dieu n'est pas le tout. Dieu, c'est le créateur du tout. Le tout, c'est rien du tout. C'est un milliardième, deux milliardièmes, deux milliardièmes, deux milliardièmes, et encore à l'infini de Dieu. Alors, à partir du moment où, je prends la suite de ce que nous avons dit tout à l'heure, va naître le Bhakti. Considérez que le Bhakti va naître environ à partir du 2, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Il va être complété par des pratiques physiques. Le point de vue de l'incarnation va devenir important avec le yoga. Pantajali, n'est-ce pas ? 4e siècle et après Jésus-Christ. Et pratiquement toutes les doctrines vont passer par des pratiques, lesquelles sont inscrites dans des livres qu'on appelle les darshanas, les philosophies de l'Inde. Les darshanas, c'est beaucoup plus l'aspect non pas philosophique, comme dans les Upanishads, mais c'est beaucoup plus un aspect, cette fois-ci, religieux et mystique, incarné. Donc on va regarder ici la pratique, pas seulement les intuitions transmises de l'absolu divin, mais la pratique, les conseils qui sont donnés pour qu'à travers des exercices où le corps et les puissances organo-végétatives se rassemblent pour nous faire rentrer dans cette épure de l'origine, de notre origine toute pure, n'est-ce pas ? Et les yogas donc vont apparaître. Le yoga va devenir très compliqué au bout d'un certain temps. À l'origine, le yoga de Pantanjali est un yoga de bhakti, c'est un yoga d'amour. Il s'agit d'aimer Dieu Ishvara, le Seigneur. Et donc, il n'y a pas beaucoup de postures. Mais avec du 4e jusqu'au 20e siècle, il va y avoir une multitude de multiplications de postures. Il va y avoir autant de postures presque que de kalpa dans la vie de Brahman. Ce qui n'est pas peu dire. Il y a exactement 84 000 postures. 84 000. Sur les 84 000, il y en a 84 aujourd'hui qui sont les principales. C'est très compliqué une posture. Et sur les 84 principales, il y a deux que tous pratiquent. Les postures ont pour but de faire que le corps ne vienne pas vous perturber dans votre concentration sur le soi. Sur le centre de vous-même, si vous préférez. Hein ? Il faut arriver à trouver le centre de vous-même. Ce qu'il y a de très pur dans le centre de vous-même, qu'on appelle l'atman. Si un jour vous voyez le Dalai Lama qui vous dit l'atman, c'est ça. Ce qui est très très pur au centre de vous-même, c'est l'atman. Et si tu t'identifies complètement à l'atman, tu es devenu Brahman. Tu, l'atman, es cela. Cela, c'est toujours avec des lettres majuscules. Hein. Ça, c'est le résumé des Upanishads. Donc, avec les darshanas, il va falloir voir comment tu vas devenir tu. Et dès que tu es tu, Brahman, c'est toi. C'est-à-dire l'absolu, c'est toi. Il n'y a plus de différence entre toi et l'absolu. Dieu, c'est toi. Et puisque Dieu, c'est toi, tu peux dire qui est Dieu. Donc tu peux inventer un visage de Brahman. Ça va ? Mais tu as le droit. Je veux dire, ce n'est pas aberrant. Vous comprenez que ce n'est pas aberrant dans la mystique hindoue. Donc voilà le principe. Quand vous verrez dans les textes du Nouvel Âge, le Maitreya, dans les trucs de la nouvelle religion, etc., dès que repérez, je vous le signale, repérez, c'est important ce que je vous dis là, dès que vous verrez dans un texte, dans le monde, dans le Nouvel Observateur, dès que vous verrez cela en lettres majuscules, dites-vous bien qu'on est en pleine doctrine panthéiste. C'est quelqu'un qui a la foi panthéiste. Donc, il n'est pas un sage. Il ne croit pas que Dieu soit créateur transcendant. C'est sûr. Ou alors, il veut bien y adhérer intérieurement sans trop y croire. Mais repérez bien que dès que vous aurez Cela, c'est la manière de dire à l'occidental, tu es cela, tu es Brahman. Si tu es pur, tu deviens l'absolu. Et vous le verrez souvent, de plus en plus. Quelquefois, vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'ils ont mis cela avec lettre majuscule ? Vous signale. Pour vous y repérer. Quand ce sera les textes religieux chrétiens, donc, vous aurez repéré que c'est quelqu'un qui est rentré par la fenêtre. Il faut comprendre ça. Vous savez bien ce qui distingue le judéo-christianisme, la révélation, c'est que nous adorons. Tu adoreras Dieu, ton Créateur. C'est par l'adoration. Quand je dis tu es cela, Dieu, tu l'adores pas, parce que c'est toi Dieu. Donc il n'y a pas d'adoration. Alors, il faut comprendre pourquoi le yoga devient quelque chose d'important. Parce que je vous ai expliqué que l'aspect tout à fait pur qui est en toi, c'est l'âme, qui est pure lumière. Dans ton corps, dans ton composé humain, il y a quelque chose qui est entièrement pur, c'est l'âme. Il faut donc faire venir en toi, dans ta conscience, dans ton expérience surtout, que tu puisses toucher l'âme. Pour pouvoir toucher l'âme, il va falloir que tu mettes à nu, à l'intérieur de ton corps, tout un circuit, j'allais dire, de lumière. Et c'est comme ça qu'on va trouver un système, parce que l'hindou ne croit quelque part qu'à partir de l'expérience personnelle. Pas à partir d'une révélation, mais à partir d'une expérience personnelle. Je vous l'ai déjà expliqué. Et donc, il faut mettre à nu, grâce à des postures, cette âme. Bon, la première advenue de l'âme, c'est le corps subtil. Le corps subtil, c'est cet ensemble d'artères énergétiques qui passent dans votre corps et qui sont repérés par les acupuncteurs, par exemple, et qui font que, finalement, votre corps est innervé de force, cette énergie. Il y a beaucoup de méridiens. Les méridiens, je vous dirai peut-être plus tard combien il y en a, mais il y en a pas mal. En tout cas, chez les Chinois, on considère qu'il y a l'acupuncture chinoise considère qu'il y a principalement 12 méridiens qui semblent établis dans le tissu sous-cutané, sont reliés en un cercle ininterrompu où l'énergie coule toujours dans le même sens, comme dans les neurones. Le cercle entier des 12 méridiens d'une longueur d'environ 40 mètres, circule le long de votre corps en 28 minutes et 48 secondes. C'est pour ça qu'il faut faire horizon une demi-heure. C'est extraordinaire. À savoir, c'est très joli, hein, je ne dis pas que c'est faux, hein. Vous avez noté, je n'ai pas dit que c'était faux, à savoir 50 fois par 24 heures, par jour. Rappelez que Jésus disait au moment de la distribution des pains qu'ils se mettent par 50, par groupe de 50. Hein. En dehors de ces 12 méridiens, il existe deux lignes méridiennes principales. Le vaisseau de conception, qu'on appelle Genmo, je m'excuse de ces détails, hein, et le vaisseau gouverneur Tumo. C'est du chinois, hein, c'est le cas de le dire. Leur point de départ dans le corps, à esthétique, c'est très important. Je ne sais pas comment le mettre. Voilà les jambes, n'est-ce pas? Voilà les bras, voilà la tête. D'accord? Donc leur point de départ, c'est le Périnée. Le Périnée. C'est entre, au fond, c'est, en fond, c'est entre l'anus et la base du pénis. Hein. Et pour leur femme, c'est au niveau de la vulve. Leur point de départ est là. Elles aboutissent aux lèvres. Par devant, le zenmo rejoint le périnée à la lèvre inférieure, point 24, en passant par le point 8 du nombril. Il est source de la naissance et de la croissance. Et c'est très important, ça. Il est source, donc, de la naissance et de la croissance. Il passe par devant. Il passe par le nombril et arrive à la lèvre inférieure. Par derrière, le thoumo suit la colonne vertébrale par derrière, passe par le point 21 au vertex pour aboutir au point 27 à la gencive supérieure. Oui, mais vous savez que ça, il y a des... C'est important, ça. Notons que le courant d'énergie dans ces deux lignes médianes remonte toujours remonte, du périnée vers la bouche. Bon, tout ça, c'est clair, net et précis, c'est vrai, il y a des phénomènes électriques dans un corps qui n'est pas... qui se rassemble, qui essaie... Si vous êtes complètement les yeux ouverts, etc., je suppose que ce phénomène est difficile à repérer, mais si vous êtes dans un état de relaxation, d'endormissement, ces énergies circulent librement. Donc, celui qui passe par derrière, le thoumo, est le vecteur de l'action et de la vigueur. Et l'autre, c'est celui de la naissance et de la croissance. Bon, tout ça, c'est des choses connues par les acupuncteurs. Enfin, dans un état de relaxation complète, des ondes dites alpha, je m'excuse, c'est de la culture générale que je vous donne aujourd'hui. Hein. Les ondes dites alpha sont repérées au niveau du cortex. Et avec le jaillographe, de manière isotopique, c'est-à-dire sur tout le cœur, sur tout le corps, ces ondes sont repérées sur toute la surface de la peau. En état de relaxation normale, complète. Les ondes alpha ont une fréquence de 10 vibrations par seconde. Tout le problème du yoga va être de réactiver les énergies du corps subtil, de toutes ses artères, de manière à faire passer les ondes à une suractivation, les ondes bêta, qui correspondent à 25 pulsations par seconde. C'est-à-dire à vous faire entrer en fait dans un état cataleptique. Un jour, il va falloir que je vous explique la différence entre l'état léthargique, l'état cataleptique, l'état somnambulique, l'état hypnotique. Sont des états psychomoteurs.
L'électrocéphalogramme. Est-ce que par exemple il y a des... Enfin, je ne sais pas si c'est sur le sujet, mais y a-t-il par exemple des lésions dans le cerveau qui ne sont pas repérables à l'électrocéphalogramme? Enfin, je ne sais pas si c'est pour les réponses.
Si, c'est par l'électro... Attends, non, répète ça.
C'est-à-dire que l'électrocéphalogramme...
Oui.
Mesurer l'activité
cérébrale.
Cérébrale.
Oui.
Mais bon, il y a par exemple certains cas de maladie où des gens ont des lésions.
Oui.
Tu
repères effectivement des dysfonctions, des ruptures, des irrégularités. Hein? Ou alors, au contraire, les pulsations vont à une vitesse considérable. C'est-à-dire que le type va être considéré comme anormal parce qu'il pulse à 25, sans être en état de relaxation. Alors du coup, on va lui faire des médicaments pour que réduire l'activité et qu'il passe à... Alors comme on ne sait pas trop mesurer, il va passer à quelque chose de...
C'est ce qui fait que c'est pas fiable en fait, qu'il peut très bien y avoir...
Il peut y avoir des lésions, mais une lésion donne une irrégularité. Donc il va donner des sommets, si tu veux... Et donc, on va vouloir supprimer les sommets. mais ça ne te donnera pas la régularité. C'est le problème, c'est très difficile de traiter, de traiter une dysfonction organique dans le cerveau. Hein. Bon, alors, continuons. Donc les hindous, eux, à partir de ce substrat humain, ont inventé, finalement, le maniement de cette énergie. Ils ont imaginé un élément intermédiaire qu'on appelle donc le corps subtil, entre l'atman et le corps. Et il va falloir mettre à nu ce corps subtil pour localiser et structurer l'énergie qui est en nous, de manière que, une fois localisée et structurée, elle puisse nous amener précisément à cette épure. Et tout le yoga consiste à faire ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce corps subtil? Eh bien, c'est un organisme psychique qui est en vous, je dis bien psychique, c'est pas spirituel, c'est ça qui est important. Le corps subtil est un organisme psychique qui fait que vous pouvez être dissocié. Le corps subtil, c'est un organone, si vous voulez, une structure psychique, psycho-énergétique, qui peut se dissocier. Du corps physique, attention, je ne parle pas ici du voyage astral, qui peut se dissocier du corps physique dans ses opérations. C'est-à-dire l'activité que vous avez au niveau du corps subtil ne fait pas sortir ce corps subtil, votre âme, de votre corps, mais va faire que vous dissociez vos opérations intérieures de vos opérations corporelles. Vous ne quittez pas le corps, vous pouvez le quitter. Croire que vous le quittez, mais vous ne le quittez pas. Physiquement, vous ne le quittez pas, sinon le corps mourrait. Sans l'âme. Il y a une dissociation, mais cette dissociation n'est pas au niveau de la substance, d'accord ? Pas au niveau de l'âme, elle est au niveau des actes que vous posez. Vos opérations sont dissociées. Habituellement, lorsque vous faites un acte, vous aimez quelqu'un, vous allez vers elle, cette personne, vous l'embrassez, et puis voilà, votre acte personnel ne dissocie pas le point de vue physique du point de vue de ce que vous ressentez, de l'élan intérieur. Tandis que là, je vais dissocier ce que fait mon corps physique de cette opération psycho-énergétique intérieure. Le corps ne bouge pas et je me lance vers la personne. Merveilleux. C'est la base du channeling. Hein. Le corps ne bouge pas. Dans le yoga, immobilité. Et c'est tout le corps subtil, du coup, qui agit. Donc, ainsi, la technique du yoga a pour but premier la perception subtile de ce corps subtil. Première étape du yoga, il faut pouvoir percevoir ce corps subtil qui est innervé de 84 000 méridiens. Bon, je ne sais plus combien il y en a, 84 000 ou... Ça n'a aucune espèce d'importance. Et l'ensemble de ce corps subtil va être irradié par des énergies qui sont homogènes et qu'on va appeler en sanskrit le shakti. Le shakti, rappelez-vous, ça veut dire énergie. Et l'énergie, c'est la participation que nous avons avec la mère divine de l'univers. Donc le corps subtil n'est pas en nous l'atman, mais l'énergie qui y circule a cette homogénéité qui nous rapproche de la mère divine. Mais la mère divine n'est toujours pas le principe non manifesté, c'est-à-dire Brahman, attention. Donc ce n'est qu'une étape. Donc dans un premier moment, il faut que j'immobilise mon corps dans une certaine posture pour que, par un système d'excitation organo-végétative, apparaisse le corps subtil. Ça va ? Une fois que c'est le corps subtil, je touche de manière subtile mon corps subtil. Puis, j'essaye de trouver cette énergie unifiante qui est dans mon corps subtil. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec le point de vue spirituel. Alors, je vous ai dit 84 000 artères subtiles. Il n'y en a pas 84 000, il y en a 72 000. Je m'excuse de cette petite erreur. Mais 84 000 postures. 72 000, vous voyez, ça c'est du côté un petit peu bouillonnant de l'intuition, ça. Et toutes ces artères subtiles s'enracinent ici, dans le chakra du bas, le premier chakra, le premier centre d'où partent toutes les énergies. Et ce centre est le centre des énergies qu'on appelle l'énergie du Kundalini. L'énergie sexuelle, l'énergie de la fécondité, l'énergie de la sexualité, c'est pourquoi, du reste, elle s'origine à la mère divine. Et à toutes les traditions mystiques du matriarcat magique. Matriarcat magique, mais le centre des énergies au niveau de la vulve. Et il faut seulement, avec le patriarcat, avec l'âge ténébreux, le serpent kundalinique s'est recroquevillé, enroulé, levé dans le périnée. Et tout le travail, c'est de réveiller cette énergie et de la faire monter, en la faisant passer par le méridien du devant, ou par le méridien arrière en même temps, si vous êtes très fort. C'est-à-dire le centre qui est là, pour réveiller un petit peu le serpent, pour le secouer. Alors, vous mettez la posture. Ah non, non, mais raconte-toi. Alors, et quand même, j'aurais voulu vous décrire la fameuse position yogi. Voilà. Il y a deux positions yogi qui sont pratiquées par tous. La posture de réalisation est considérée comme la meilleure de toutes. Donc, ne perdez pas de temps avec les 84 000 autres. Et surtout, entre parenthèses, ne faites pas celle-là. De se mettre à genoux, ça a également une signification et ça a également un effet qui, je vous le signale, est un effet contraire au niveau physiologique. Et donc, si vous voulez faire oraison allongée sur le dos, j'ai bien peur que ce soit foutu pour vous du point de vue de l'oraison surnaturelle. Et si vous voulez le faire avec la posture de la réalisation, ça fera monter les énergies d'en bas, la Kundalini, et ça empêchera la descente du feu d'en haut, c'est-à-dire celle de la grâce, pour s'emparer de l'ensemble de votre corps. Je vous le signale. Et il y a une différence de nature entre la mystique des énergies et les postures liées à la montée des énergies et le point de vue de la descente de la grâce. C'est pour ça qu'on distingue le point de vue de la Lune et le point de vue du Soleil. La Lune, les états lunaires, qui nous mettent dans des états cataleptiques, sont des états qui viennent de cette posture qui, en montant, vont mettre le névrax, séparer les activités du névrax, c'est la névrax, la mémoire sensible, la séparer de la concentration mentale, de la contemplation intellectuelle, de la substance intellectuel, comme vient de le dire le Swami, pour que vous soyez uniquement dans un état d'obéissance à autre chose qu'à ce que vous comprenez. Vous obéissez, dans un état hypnotique, vous obéissez à un autre opérateur que vous. Et l'opérateur à qui vous obéissez, c'est cette source de l'énergie qui est en vous, latement, et notamment, c'est le maître du cosmos, qui dirigera votre activité intérieure. Entre parenthèses, qui est ce maître du cosmos?
Leur père,
alors, vers les samadhis.
Toutes les personnes qui font du yoga sont malistes, j'en connais deux ou trois, et il y a un danger énorme, même elles disent nous ne faisons pas la philosophie, nous ne faisons que les postures.
Oui, alors les postures, vous voyez bien que ça vous met dans un état.
C'est dangereux.
Lorsque vous mettez donc dans la posture de la réalisation, vous comprimez terriblement le. Et en même temps, vous devez faire agir, parce que ça ne suffit pas de vous mettre dans cette posture, il faut réveiller le corps subtil. Pour réveiller le corps subtil, il faut faire agir en vibration supérieure, l'audit corceptile, dans toutes ces nervures. Et vous allez agir les muscles intérieurs correspondant donc un petit peu au-dessus précisément du périnée. Vous faites agir. Je m'excuse, mais enfin, c'est un petit peu quand vous avez le petit enfant, si vous voulez, hein, qui a envie. Il est à l'école, il n'a pas le droit de sortir pour aller au WC, et il est obligé de se presser comme ça pour pas pisser dans la culotte. Bon, alors donc, ça vous contractez à ce moment-là des muscles ici qui sont au niveau au fond de la vue, si vous voulez, hein. C'est tous ces muscles qui se contractent, et à bien regarder, ils font un phénomène, même par rapport à l'air, d'aspiration. Et en faisant ça, si vous êtes dans la dite posture, si vous bloquez la sortie des énergies, là, ici, à ce niveau-là, donc du coup, c'est pour ça qu'il faut le coincer au niveau mental, c'est pour ça qu'il faut bloquer ici, en mettant vos deux yeux sur le sourcil, et au niveau donc des centres qui correspondent au chakra du cœur, alors à ce moment-là, l'énergie monte librement, sans, en comprimant, vous voyez, en comprimant le... C'est bien que ça met une pression là, et ça peut vous mettre dans des états mystiques. Et ça vous met en effet dans des états mystiques. Des états qui ressemblent beaucoup à ces états mystiques. Regardez par exemple ce que dit Sainte Thérèse d'Avila au quatrième demeure du château. Il se fit alors un tel bruit dans ma tête depuis quelques mois. Il me semble entendre le bruit d'une foule de fleuves qui se précipitent, d'oiseaux qui chantent, de sifflements. Je perçois non dans les oreilles, mais dans la partie supérieure de la tête, où, dit-on, réside la puissance supérieure de l'âme. Et voici ici une nouvelle description de quelqu'un qui pratique le Kundalini. C'est spontanément, l'énergie enroulée s'est réveillée en moi pour aboutir à une nuit très belle, à l'œil de Shiva entre les deux sourcils. J'ai entendu tout d'abord comme des oiseaux qui chantent. Il était 3 heures du matin, puis un bruit de cataracte, et enfin comme un sifflet de locomotive avec sa vapeur. Et Sainte Thérèse d'Avila, exactement la même chose, quelque part, voyez. L'origine n'est pas la même. Je provoque au fond des phénomènes qui se ressemblent, mais qui n'ont pas la même signification, la même finalité, ni la même origine. D'où la difficulté de discerner. S'il n'y a pas les vertus héroïques, vous êtes sûr qu'il n'y a pas l'éthique et la métaphysique, l'adoration, il y a danger que ça vienne de l'énergie d'en bas. Et c'est pour ça que, quelles que soient les grâces que nous recevons, ça peut venir de notre orgueil. Et on doit toujours, ce que dit saint Thomas d'Aquin, considérer cela. Et préférer cette solution à une autre. Que savoir que tous nos phénomènes sensibles de ce genre ne viennent pas de Dieu. Ce que dit Saint Jean de la Croix aussi. Oui. Alors, pour arriver à cet état, d'abord, il faut maîtriser le corps, premièrement. Deuxièmement, j'espère que vous commencez à comprendre peut-être le but de notre travail aujourd'hui. Hein? Les différents stades de l'évolution dans la mystique hindoue. Stade A. C'est un stade ascétique qui est assez semblable à ce qui est demandé dans le christianisme et qui est très beau. Vous pouvez prendre les textes de l'hindouisme pour utiliser ce qu'ils disent là. Et c'est très beau, c'est très grand. C'est le stade des abstinences et les observants. Le stade B de l'évolution du mystique hindou, c'est le stade des postures. Vous voyez, j'ai commencé par les postures. Puis le contrôle du souffle. Qu'on appelle pranayama. Et enfin, le retrait de toute activité sensorielle. Je ne vous dis pas le terme, hein. Si vous voulez, ceux qui s'intéressent. Le pratyahara. Si vous arrivez à ça, à force d'exercice, vous avez vu que le Swami vient de dire qu'il faut un an, hein, à peu près, donc c'est vite fait. Alors, vous arrivez au stade qui est celui du religieux hindou, celui qui a la foi, à savoir vous apprenez l'eka grata, on appelle ça l'état de concentration, le dhyana, c'est-à-dire l'état d'assimilation, et enfin les états de samadhi. Alors il va falloir quand même que je vous explique tout ça, c'est-à-dire le stade de l'identification avec Brahman. Comment est-ce qu'on va faire? C'est doué quand même, hein, il fallait y penser. Bon. Alors, je vais vous lire parce que c'est très beau. Et le Concile Vatican II nous dit de voir dans les religions ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand, ce qu'il faut encourager et là où il faut accompagner. C'est les abstinences. Les abstinences, dans les Upanishads, sont au nombre de 10. C'est la non-violence, la véracité, que nous avons vu l'année dernière dans la vertu de justice, l'honnêteté, la chasteté, l'affabilité, la rectitude, le pardon, l'endurance, la tempérance et la pureté. C'est beau. Patanjali, 4e siècle, propose de résumer ça en 5 grandes règles qui sont l'abstention de la violence, s'abstenir de toute violence. L'abstention de tout mensonge. L'abstention de tout vol ou rapine. L'abstention de toutes sortes de luxures. Et l'abstention de tout esprit propriétaire. Or, je vous rappelle que c'est le premier stade dans lequel vous ne pouvez pas rentrer dans les postures. Impossible. C'est grand, quand même. L'absence complète de tout trouble et de toute émotion érotique en pensée, dans les sens et dans le corps, telle est la chasteté en tout.
La chasteté chrétienne aussi.
Absence complète, hein, complète, de tout trouble et de toute émotion érotique en pensée, dans les sens et dans le corps. Ah, écoutez, si tous les gnostiques, hein, de nos loges pouvaient. Si Jack Lang pouvait rentrer là-dedans, ce serait merveilleux. Elle implique en outre la réglementation du régime alimentaire, des amusements, des pensées, du sommeil et de tous les autres besoins physiques. Voilà ce que c'est que la chasteté pour un hindou. C'est joli, hein? Donc soyons hindous. Au stade A, des abstinences. C'est ça? Donc après toutes ces purifications passives, à force d'aspirer à l'absolu, ces purifications viennent petit à petit et nous mettre dans cet état de chasteté, de tempérance, de droiture, de gratuité, de liberté intérieure. À ce moment-là, tu vas rentrer dans les 5 observances, c'est-à-dire les purifications actives. Vous remarquez le caractère un petit peu, le caractère un petit peu dans la progression inverse par rapport à nous. On commence par les purifications actives, puis les passives, n'est-ce pas? Enfin, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est un peu normal puisque c'est pas le même circuit. C'est d'en haut. Pour nous, c'est d'en bas pour eux. Alors, ces purifications vont impliquer le socha, le santasha, le tapa, le savad, sadhyaya, l'ishvara pranidana, qui consiste non à rechercher l'amour ou à porter les souffrances des autres, mais, je cite, à éviter toute forme de souffrance qui pourrait résulter des actions d'autrui. Si quelqu'un te fait souffrir, il faut que tu rentres dans l'observance qui consiste à faire que ça ne te fasse pas souffrir. Très, très extraordinaire. Ça, c'est pas chrétien du tout. C'est pourquoi il pratique ces 5 observances qui sont la pureté, le contentement, l'austérité, le développement de soi et la pensée constante de la divinité. C'est très beau. Quelque part, c'est très beau. C'est vrai. La pureté, Ksosha, elle doit être extérieure et intérieure. Elle ne consiste pas seulement à la pureté du cœur, comme chez nous, mais dans une pureté extérieure au corps et intérieure au corps. C'est pourquoi, on doit par ailleurs, je me rappelle, quand j'étais à la communauté du phare, tous mes petits frères de la communauté du phare avaient passé 10 ans en Inde. Alors, ils pratiquaient le socha, la pureté. Là, ça consistait à prendre, par exemple, de l'eau, vous preniez de l'eau, vous aspiriez l'eau par le nez, ça rentrait là, et vous recrachiez par la bouche. Puis, vous preniez par la bouche, et vous, ça filait par le nez. Comme ça, vous laviez tout le circuit rhino-pharyngé. Elle consiste à se nourrir d'aliments purs, à observer toutes les règles du bien-vivre. Il existe 6 actes purificatoires, le lavage d'estomac, le lavage des intestins, le lavage du nez, le secouage du ventre. Pour la pureté intérieure du corps, s'obtient par des bains, au nombre de 7, dont le bain de paroles magiques. La pureté du site s'obtient en couvrant le sol. Il faut aussi purifier l'extérieur de la maison. La pureté du site s'obtient en couvrant le sol et les murs d'un mélange de terre et de bouse de vache sacrée. La pureté de l'orientation s'obtient en se tournant vers l'est si on cherche un résultat matériel ou vers le nord si on cherche un résultat spirituel. Le jour est toujours vers le nord si c'est pendant la nuit. Sauf les Chinois qui tournent vers le sud. Bon, enfin, c'est pas grave. Le contentement correspond à l'état d'impassibilité qu'on trouve chez les pères du désert du 3e et 4e siècle, les premiers pères chrétiens du désert. L'apatheia, il faut rentrer dans l'impassibilité de l'âme. Je ne me laisse troubler par rien. L'austérité, c'est la pratique du jeûne et de toutes les autres formes d'abstinence. Notamment, l'austérité consiste à ne pas parler, à respecter le silence total, verbal, physique et mental. Elle doit comprendre un silence intérieur et se mesure à ce qu'elle s'accompagne de l'allégresse de l'esprit et qu'elle ouvre sur la connaissance et la concentration du soi.
À quoi livre dans le domaine chrétien ?
À la grâce. À la grâce. À la présence de Dieu qui est en toi. Hein, à la présence de la très sainte Trinité par la grâce. Parce que si c'est la présence d'immensité, c'est une autre voie. Il accède à la présence d'immensité par l'adoration. Le développement de soi, utilisant le japa des mantras, une fois que tu es dans cet état de silence, tu vas utiliser les mantras, un son. Om, om, mandarom, om, 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 om. Notamment, où est-ce qu'il est mon pranayama ? Ben, je vous en parlerai tout à l'heure. De manière à ce que tu puisses, car par ce rythme déterminé de caractère magique, éveiller et maîtriser l'énergie latente dans les sons et acquérir ainsi la connaissance de tout ce qui peut être exprimé dans ton corps par les sons, de toutes les sciences de ce monde et des autres. Alors tu aboutis à la pensée constante de la divinité ou Ishvara Pranidhana, qui est la voie de Bhakti, qui consiste à t'abandonner en ton être à la divinité par l'offrande de tous tes actes et de leurs conséquences, abandon qui aboutit à la suppression de tout désir. Et c'est cela la plus importante des 5 observances. Tout ça, c'est parfait. Sauf la gymnastique du... Hein, parce que si tu fais rentrer avec ton gourou le fil que tu as bien huilé, justement, avec de la cire, et puis de l'huile après, par le nez, et puis que tu vas sortir, tu peux sentir tout le monde. Non, ça, d'accord, laissez tomber. Hein. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais excellent. Sinon, le reste, c'est externe. C'est toutes les exagérations. Tout ça aboutit à ce qu'on appelle donc, ce qu'on pourrait appeler le fameux yoga Ishvara. C'est l'abandon d'amour au Seigneur. Tout ça est excellent. Ce n'est pas suffisant, parce qu'il n'y a pas la charité. Mais c'est un abandon d'amour. Et je crois que Patanjali avait fait quelque chose de très beau au IVe siècle en faisant ça. Vous voyez ? Et il a évidemment beaucoup, certainement beaucoup emprunté, ces points d'interrogation, au christianisme pour en arriver là. Mais par contre, à partir du moment où on rentre dans un système de posture, on réintègre les pratiques, des pratiques égyptiennes, des pratiques magiques, des pratiques ariennes, pour réveiller le feu d'en bas. Et une fois qu'on est arrivé donc à cette situation d'abandon, de liberté, au lieu de laisser la liberté, j'allais dire, à Dieu d'intervenir, on va laisser la liberté à ton énergie kundalinique de rentrer, prendre possession de tout ton corps ainsi libéré. C'est pourquoi on pourrait être assez violent en tant que chrétien vis-à-vis de l'hindouisme en disant c'est une pratique d'inversion. C'est un adultère par rapport à Dieu. Parce que je me suis préparé pour Dieu et je me donne à l'énergie d'en bas, qui est une énergie sexuelle. Transformé, mais sexuel. Alors, le souffle maintenant, il faut que j'aille un peu vite, le pranayama, les postures, je vous en ai parlé, le pranayama contrôle du souffle, une fois que vous êtes capable de rentrer dans la posture, il va falloir que vous activiez, non seulement par les muscles du bas, pour faire comme un soufflet, ça, par le bas, hein, avec des opérations musculaires et puis des physiques, puis de concentration mentale. Mais vous allez aussi utiliser l'énergie du souffle et aussi l'énergie de la circulation sanguine. Vous voyez comme c'est compliqué. Alors, c'est un truc complètement incroyable. C'est vraiment du fakirisme, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, il faut rentrer dans un état cataleptique, où précisément l'attention du cerveau antérieur qui vous permet de maîtriser la vérité, de contempler ce qui est vrai et la réalité, et réfléchir, et méditer, et adorer, ici c'est au niveau tout point de vue mystique spirituel, s'active dans notre incarnation, dans notre corps, avec le cerveau antérieur. Il s'agit de le déconnecter dans un état cataleptique, donc se mettre dans un état plus ou moins de sommeil. Le sommeil léthargique, qui va pouvoir devenir cataleptique par la montée des énergies, la suractivation de ces énergies. Et voilà comment on va faire. On va utiliser l'énergie du souffle, le pranayama. Or, dans la durée, je veux dire, dans le sommeil, vous le savez peut-être, moi je ne savais pas, mais vous respirez d'une manière plus courte que quand vous expirez. Dans le sommeil, grosso modo, si vous mettez 4 secondes, c'est vrai, vous mettez 8 secondes à expirer. Alors, on va vous faire dire OM, 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 OM 4 fois quand vous expirez. Mentalement, vous faites OM, OM, OM 4 fois. Et quand vous expirez, vous faites OM, OM, OM 8 fois. Puis, vous faites OM, 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 OM 16 fois sans expirer ni inspirer. Puis, vous faites OM mentalement 4 fois. Dans la posture en question, c'est après pendant la posture. Après, une fois que vous êtes... De manière à ce que petit à petit, vous allez pouvoir, si vous faites ça, au bout de 6 mois, non seulement vous pourrez rester, au bout d'un an, vous pourrez rester non seulement 12 heures dans la position en question, mais en plus, vous pouvez faire passer non pas à 4 ohms, 8 et 8 ohms, l'expiration, l'inspiration, mais vous pouvez passer jusqu'à 7 minutes, puis... une demi-heure avec une seule inspiration, expiration. Et si, parce que tu vois qu'on utilise ça par exemple chez les plongeurs, quelques plongeurs utilisent ça pour plonger et rester un quart d'heure, 20 minutes.
Mais l'apnée,
c'est limité, mais
l'effort, il se limite à 7 minutes.
Ça fait rien. Tu peux quand même déjà y arriver, assez rapidement en tout cas, n'importe qui peut y arriver rapidement, à faire au moins ceci, ce lit. Tu arrives à une respiration toutes les 2 minutes sans aucun problème au bout d'un an d'entraînement. Mais déjà, tu as qu'à essayer de faire tout seul. Ça, c'est facile, vous pouvez faire l'expérience. Faites comme ça, 4, 8, 16. Faites-le 7, 8 fois. Vous verrez que vous pouvez passer facilement à 8, 16, 32. Assez facilement. Vous pouvez le faire 2 fois, peut-être, pas plus, mais vous y arrivez. C'est ça ? Bon.
En plus, il faut aspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche, puisqu'il faut que le circuit se fasse selon les méridiens. Si vous faites cela, votre impression intérieure, je m'excuse de tous ces détails, passe par 5, le pranayama. Le pranayama, c'est vraiment le véhicule. Hein. Le petit véhicule, c'est le pranayama. Attention, pranayama, ça ne veut pas dire petit véhicule. Mais c'est la pratique du TV. Ça veut dire que vous êtes le véhicule individuel qui vous fait rejoindre le Brahman. Pranayama, c'est la respiration. C'est l'énergie par la respiration. Contrôle du souffle, pranayama. Alors, si vous faites ça, vous allez arriver à 5 états principaux qui sont l'état de... Vous n'êtes pas habitué. L'état de stupidité. Parce que ça vous met dans un espèce d'état de somnolence, évidemment. L'état de stabilité. Au bout d'un certain temps, vous y habituez davantage. L'état de stabilité imparfaite. Puis, l'état de concentration. Vous pouvez, à travers ça, vous concentrer. Vous comprenez? Parce que dans l'espace qui va durer, par exemple, 50 secondes où vous n'expirez ni n'inspirez, l'énergie est libre de monter, et donc vous pouvez vous concentrer dans cette énergie. Et à chaque fois que vous inspirez, expirez, hop, ça redescend. Le Kundalini redescend. Il faut recommencer. Et plus vous y arrivez, plus le Kundalini va monter au centre divers qui sont un petit peu au-dessus. Mais une fois que vous avez atteint, par exemple, celui-là, ça y est, vous pouvez rester. Vous allez lui rester. Comme si vous étiez pendu, n'est-ce pas? Vous pouvez respirer, inspirer. Bon. C'est l'état de concentration qui vous permet de rentrer dans des états de réalisation magique. Enfin, il va y avoir l'état d'immobilité qui correspond à l'état du samadhi sans racine. Si vous regardez bien, l'état de concentration qui est atteint en quatrièmement dans le pranayama vous permet d'atteindre le point de vue ici de l'ekagrata. L'état d'immobilité vous permet d'atteindre les aspects du samadhi. Donc, quand vous êtes au stade du contrôle du souffle, vous êtes un croyant hindou qui allait vers l'absolu, vous êtes dans un état de somnolence, mais vous finissez par vous y stabiliser imparfaitement. À ce moment-là, vous allez essayer de vous retirer de toute activité sensorielle. Vous allez attendre le moment où dans cet état-là, si quelqu'un vous hurle dans les oreilles, c'est comme s'il n'avait pas hurlé. Si vous en arrivez là, vous pouvez rentrer dans l'état de concentration et commencer à rentrer dans les mantras magiques. Notamment, je vous signale, dans le tantrisme et dans le bouddhisme, le tibétain. Et enfin, l'état d'immobilité. Donc vous voyez bien, on va maintenant regarder le samadhi. Vous voyez donc que tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Et on ne peut pas dire que ce soit un état de possession démoniaque, hein, que personne ne vienne me dire que j'ai dit ça. C'est des phénomènes qui relèvent de la physiologie humaine et de l'énergie métapsychique propre à l'homme. Aucune intervention, sauf si dans l'état de concentration, je rentre dans, effectivement, l'appréhension de puissance intermédiaire, ce qui est toujours possible. Mais c'est condamné par l'hindouisme. C'est pour ça que le bouddhisme est considéré comme une hérésie. Le tantrisme, encore mieux. Voilà. Donc, lorsque l'agitation mentale sera calmée, vont naître des perceptions ou des visions supramentales, et avec elles, la perception de l'unité fondamentale de tout ce qui existe. Ah, vous voyez, on commence à rentrer dans une perception de la mémoire. Je vous répète, vous voyez, il faut tout ce cheminement pour arriver à cet exercice de l'âme où personnellement, vous touchez, percevez supramentalement l'unité fondamentale de tout ce qui existe. Ceci est très, très intéressant et très vrai. Vous voyez bien que quand vous faites, nous essayons d'aller plus rapidement, pas besoin de faire 8 siècles de posture.
faites un jugement d'existence. J'existe. J'existe. Et dès que faites un jugement d'existence, si vous êtes capable de rentrer dans le point de vue de l'être, aussitôt, vous êtes dans une perception de l'unité fondamentale de tout ce qui existe. Mais ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas un jugement d'existence. Tandis que là, arriver à ce, non pas jugement, mais perception intime, métapsychique et en même temps spirituelle, donc psycho-métapsychique, pardon, pneumato-métapsychique, de, très exactement, de cet absolu, de cette ontologie, de cette universalité de l'être, à ce moment-là, vous pouvez le faire, mais c'est par la mémoire. Si vous allez dans l'état de la l'ekagrata, la concentration, si vous êtes arrivé ici à ce stade C, grâce au souffle, alors à ce moment-là, vous pouvez, vous devez maintenir, c'est que vous êtes capable de maintenir la pensée fixée dans une seule direction, entièrement en vous-même, dans cette direction absolue, sans jamais être troublé dans la durée de cette concentration intérieure vers l'énergie primordiale. Et si vous passez ici au dhyana, c'est que vous êtes cette fois-ci capable de maintenir votre pensée sur un objet unique, qui n'est pas pareil. Vous étiez avant dans une direction, et maintenant vous êtes sur un objet unique. À partir du moment où vous êtes sur un objet unique, vous pouvez rentrer dans l'assimilation. La communion eucharistique, si vous voulez, nous permet de nous assimiler au Christ et de nous assimiler le Christ. Et eux ici, j'allais dire de manière pneumato-métaphysique, vont prendre l'objet qui est cette recherche de l'absolu et s'assimiler cet absolu. On s'assimile religieusement à la divinité manifestée dans les différentes parties du cosmos. Notamment, on s'assimile mythiquement, pour ne pas dire mystiquement, mythiquement, puisque c'est un mythe, à la mère divine, à la divinité causale qui règne, à la providence, nous on dirait à la providence qui règne dans l'univers, cette espèce de présence de providence. J'assimile cette présence de providence de Dieu dans tout le cosmos. Mais je dois dépasser cette providence, qu'on appellera la mère divine dans l'hindouisme, pour arriver à une assimilation totalement abstraite de toute partie cosmique ou de toute vitalité cosmique, pour entrer dans le principe non manifesté de cette providence. C'est ça le Brahman. Alors, si je suis assimilé à ce principe non manifesté de toute la création et du monde, je peux rentrer dans le but de l'opération toute pure de la mémoire ontologique qui est samadhi. C'est un petit peu idiot que je n'ai que 30 secondes pour terminer, parce que c'est le but de toute l'opération. Donc, je passe plein de pages, tant pis pour vous, tant pis pour moi. Et on va essayer d'aller encore plus vite. Et c'est lorsque vous aurez atteint cet état du samadhi que l'opération de la mémoire va pouvoir s'exercer seule, sans aucun obscurcissement du corps, de l'extériorité, ni même des activités et des vibrations intérieures. Et elle va vous permettre donc de devenir, j'allais dire, le fameux réalisé, le fameux homme réalisé, le fameux réveillé, le fameux illuminé, qui est le but de toute la spiritualité de l'Inde. Je vous signale d'ailleurs quand même, entre parenthèses, un truc que j'avais noté ici. Si vraiment vous aviez des tentations de rentrer dans cette voie, que je vais vous lire ça, parce que je voudrais quand même pas que vous croyiez que c'est moi qui l'invente. Hein. La voie du Jnana Yoga qui permet d'aboutir à cette illumination et cette réalisation finale est un tel apic que Ramakrishna, qui est un des plus grands docteurs de l'Inde, déclare que à peine un yogin par siècle pouvait arriver par cette voie. Un par siècle. Donc avis aux amateurs. En plus, ça n'a aucun intérêt pour nous, même au plan philosophique, parce que si votre mémoire ontologique atteint effectivement l'origine de votre vie en Dieu, donc la paternité en Dieu, elle l'atteint sans votre intelligence, sans votre volonté, sans amour, sans communion des personnes, sans contemplation. C'est pour ça que c'est ténébreux de leur propre description. Et du coup, lorsqu'ils reviennent dans le monde pour illuminer les autres, ils viennent, j'allais dire, sans cette présence du Verbe et de l'Esprit-Saint. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils ne doivent pas s'occuper d'illuminer en toute vérité et de donner la révélation. Il faut qu'au contraire qu'ils réveillent et fassent venir l'autre, le fidèle, dans la même expérience que lui, n'est-ce pas ? Et il ne doit pas non plus s'occuper des œuvres de miséricorde. C'est pour ça qu'il faut amener là-bas les sœurs de la charité, là, pour les remplacer. Alors, quand même, arrivons-en donc à cet état de samadhi. Cet état de samadhi qui fait de vous un... qui va faire de vous un Yivan Mukta, donc un homme complètement réveillé, illuminé. Vous serez à ce moment-là, vous pourrez être le gourou des plus grands mystiques de l'Inde, arrive d'un seul coup sa venue. Autant la préparation est très très progressive, autant la survenue de cet état final est immédiate, fulgurante, soudaine, inattendue. Elle opère à l'instant où vous l'expérimentez, une transformation profonde de toute votre perception de l'être qui en est le siège. Elle est décisive, elle vous transforme durablement. Elle se compare à une nouvelle naissance. L'état de conscience dans lequel vous rentrez sera différent en cela de celui des yogins qui l'ont précédé. Il sera établi en permanence et définitivement dans un état d'union à la transcendance, et il sera établi dans un état de conscience qui est en dehors de toute référence spatio-temporelle. Alors, il va y avoir, vous serez donc arrivé à cet état qui vient de décrire, comme vous venez de le comprendre, l'expérience que nous avons eue dans notre état de conscience ontologique au premier instant de notre existence dans la première cellule, quand nous avons été créés. Et c'est pourquoi c'est en effet par le point de vue de la mémoire ontologique que je retrouve cet état initial, absolu, sans aucune référence spatio-temporelle. Donc, vous voyez bien, ça c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis ça. Je vous explique comment ça peut arriver naturellement, ça, n'est-ce pas ? Cet état réalise, cette réalisation, cet acte tout pur et final de la mémoire ontologique, réalise dans le Yivan Mukta, dans sa pureté absolue, la nature originelle de la conscience. C'est Maharshi qui dit ça. Maharshi. Vous avez entendu parler de Maharshi quand même. Donc Maharshi vient confirmer ce que je viens de vous dire. Qu'en effet, c'est une opération 1 de la mémoire qui rejoint la conscience initiale que j'ai eue quand j'ai été créé par l'infini hors du monde spatio-temporel divin, dans l'amour, la lumière et la vie. Et en effet, c'est dans toute sa pureté absolue que cette nature originelle de la conscience vient s'installer en votre intériorité et transformer toute votre vie. Donc nous avons, si vous voulez, dans l'hindouisme, mais c'est ça que j'aurais voulu qu'on comprenne, que on arrive à un état, premièrement, donc j'arrive aux conclusions, un état qui est un état de mystique naturel, premièrement, j'espère que vous comprenez, qui ne fait pas intervenir les puissances intermédiaires, mais néanmoins qui fait intervenir des énergies lunaires, au sens de lune, à l'intérieur d'états psychomoteurs cataleptiques, cataleptoïdes, au niveau médical,
dans l'état catalytique, c'est-à-dire vous supprimez les activités cérébrales, pas les activités cérébrales motrices, mais les activités cérébrales réflexives. Troisièmement, vous rentrez dans une expérience de la mémoire ontologique séparée de toute activité spirituelle volontaire et contemplative, de manière à rentrer dans un absolu divin que vous avez commencé à aimer, mais que vous ne pouvez plus aimer, que vous n'atteignez pas dans l'amour, et bien quand vous redescendez pour illuminer, vous donnez le témoignage de la paternité de Dieu, mais vous donnez en même temps le témoignage que cette paternité de Dieu ne peut pas vous sauver du samsara, du destin, du karma. Et donc, c'est une religion, si je puis dire, de la mystique, de l'exaltation de la mystique de la mémoire, mais c'est en même temps une religion, quelque part, du désespoir. Le karma, c'est le destin. Et de toute façon, elle est quand même très intéressante, parce qu'elle témoigne, un, que notre âme spirituelle s'exerce par le point de vue de la mémoire, comme par le point de vue du cœur et de la vie contemplative. Deuxièmement, qu'elle touche réellement le divin, mais en se divisant en trois. Elle se coupe. Et donc, j'allais dire, c'est une voie qui n'est probablement pas une voie de sagesse, c'est une voie naturelle, mais ce n'est pas une voie de sagesse. Parce que si c'était une voie de sagesse, la relation au Créateur et au Père de la vie nous respecterait dans notre intégrité spirituelle, ce qui n'est pas le cas. Une voie de sagesse respecte l'unité de la personne. Bon. Troisièmement, c'est une opération de la mémoire qui peut se décrire de la manière suivante. Elle peut se décrire de la manière suivante. Elle vous permet de rentrer dans quelque chose qui est supramental, dans quelque chose, dans une activité de la mémoire spirituelle toute pure, non réflexive, ténébreuse, indifférente sur le point de vue de l'affectivité, dans un état de vide total, et en même temps, elle vous fait rentrer dans une expérience où le corps participe. Et c'est dans une expérience du corps et de la passivité totale du corps, j'ai pas eu le temps de vous les écrire, mais c'est quand même très 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 impressionnant de voir l'état. Dans l'état premier, vous faites cette expérience de l'unité avec le soi, principe du tout, par votre mémoire ontologique. Le monde se révèle totalement illusoire. Toutes vos fonctions corporelles et vos facultés intérieures demeurent. Dans le second état, si vous allez toujours plus loin et que vous continuez à vous identifier, vous rentrez dans une disparition totale de l'attrait du monde. Le monde manifesté est totalement oublié, mais de temps en temps, le Ivan Mukti s'éveille et il peut, si on le lui demande, donner un avis. Il accomplit les actes nécessaires à l'entretien de la vie corporelle. Il peut encore se réveiller de lui-même dans cet état. Dans le stade suivant, qui est l'état parfait, il arrive dans un état de long oubli, toute activité mentale est dissoute, le degré de sommeil profond du yogi fait qu'il ne s'éveille plus de lui-même. Il n'accomplit plus les actes nécessaires du maintien de la vie. Il ne s'éveille que lorsqu'il y est incité par d'autres. Et si l'on place des aliments dans sa bouche, il les mâche encore et il les avale, mais par un réflexe conditionné. Dans le quatrième état, qui est l'état définitif, le yogi ne s'éveille plus jamais, ni de lui-même, ni à l'invitation de qui que ce soit. Il demeure pour toujours errant dans les délices de la connaissance de l'absolu. Il n'est ni vivant, ni mort. On emmure son corps dans une posture assise, dans une petite chapelle, où ils demeurent sans corruption de longues années. Et même quelquefois, on les enterre, et puis on les fait sortir, je ne sais pas combien, 3 mois après. Et j'en sors très bien. Mais oui, évidemment. Alors, donc le corps rentre dans un état de passivité absolue, mais la conscience de ce lien avec ce qui est spatio-temporel, en tout son corps, en toute son intériorité, est actuelle. C'est une activité de la mémoire ontologique. Mais elle est séparée, j'allais dire, de toute la fécondité d'amour
à laquelle elle nous appellerait, puisque dans l'origine, dans la première cellule, on pouvait être dans un état de passivité. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de possibilité d'exercice, d'amour, ni de contemplation. Donc on est une petite cellule, la première cellule, 9 mois avant ta naissance. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez rien faire. Donc c'était logique, en effet, que cet état de perfection, de sainteté, nous le vivions à état d'innocence dans notre première cellule initiale. Mais c'est complètement aberrant, à mon avis, en sagesse, d'apprendre la religion comme quelque chose qui nous permet de vivre cet état originel. Alors qu'il faut prendre cette semence et lui faire donner son fruit. La fameuse parabole des talents. Donc, ça veut dire, il y a donc un discernement à faire, et au plan philosophique, et au plan religieux, et au plan chrétien. Donc, nous verrons donc la prochaine fois, de manière plus précise, le point de vue de la sagesse philosophique occidentale, et, si possible, nous verrons aussi le point de vue de l'activité de la mémoire dans la vie chrétienne d'oraison. Commencez par l'amour, la tension du cœur, la voie du bhakti yoga. Tiens, c'est comme ça, j'aurais mis un truc quand même. L'hindouisme, le bhakti yoga. 9 étapes. L'attention du cœur. Il faut que notre cœur soit tout le temps attentif. C'est une vérité naturelle. C'est pas une vérité chrétienne. C'est une vérité naturelle. Ça. Du coup, la procession d'un chant de louange à partir du cœur. Que c'est beau. C'est fort, que c'est lumineux. Merci, merci, merci. C'est naturel, ça. La méditation du cœur. Alors le cœur bouillonne. Le cœur bouillonne. Il n'est pas seulement attentif, il bouillonne. Médite, médite. Et il rabonde. 3e étape. 4e étape, l'adoration des pieds. Ça, c'est joli aussi, dans l'hindouisme. L'adoration des pieds. Tu commences à adorer ce qui est le plus bas pour aimer plus. Tu te livres entièrement à ce qu'il y a de plus bas pour aimer plus. Jésus, quand il s'incarne pour nous sauver, épouse les lois de la nature. Il prend chin, il prend le bas, il prend chair. L'adoration rituelle, du coup je fais un culte dans un lieu, dans les lieux où j'habite. C'est un culte, c'est naturel de le dire, Dieu est là, Dieu soit loué, Dieu soit béni, que ça s'entende, que ça se voit, un culte. Il y a tout un milieu, présence de Dieu qui se voit, qui s'entend. C'est naturel ça. Oui, quand j'étais à Montmorin, là, il y a quelques semaines, je suis allé chez des agriculteurs, et puis, ça fait 5 ans que je ne suis plus, n'est-ce pas, à Montmorin, donc, j'y retourne, et je ne dirai pas leur nom, c'est au cas où vous voulez, sinon, après, si je leur dis, après, c'est excellent. J'arrive là, la veille de la résurrection, n'est-ce pas, la veille de la Pâque. Et puis je leur dis, ben voilà, je viens de confesser plein de gens, tout ça, Sainte Marie, je dis la messe de la résurrection demain, tout. Bon, ben, vous allez venir quand même, hein, je suis descendu des milliers de fois, j'ai catéchisé vos enfants et tout. Ah non, non, on n'y croit plus. Ah, tu crois, hein, que c'est une histoire. J'ai descendu des milliers de fois, on a passé des, peut-être, je sais pas, j'avais calculé un jour 82 000 heures pour faire vos cueillettes de chants gratis, comme ça. Oui, mais on n'y croit plus. Le Père Emmanuel est mort, nous on pensait qu'il était éternel, donc... Donc il est mort, donc on n'a plus la foi. C'est tout. On n'y croit plus, j'y crois plus. Je dis ça par exemple, c'est la meilleure. Bon, ben vous êtes prié de venir demain, ne serait-ce que parce que c'est moi qui dis jamais, ça fait
5 ans que je suis pas venu. Je suis descendu des milliers de fois. Vous me donnerez comme ça un moment, par amitié. Je suis content de vous voir. C'est naturel, ça. C'est de l'amitié, non? C'est au moins un minimum de gratitude. Tout ce que le Père Amenel a fait pour eux, c'est impensable. Ce que Dieu a fait pour eux, les grâces qu'ils ont reçues, j'en suis témoin des grâces qu'ils ont reçues. Mais est-ce que c'est la foi qui disait vous devez venir à la messe? Non, c'est pas à cause de la foi. C'est parce que c'était une exigence de la loi naturelle. C'est inhumain. Si vous ne venez pas, ils ont dit c'est vrai, on viendra. Mais il n'y a pas que la voix de l'ange. Après, il y a eu encore 24 heures. Il y a eu d'autres voix peut-être. Ils ne sont pas venus. Et je leur ai dit, voyez, il y a des fleurs sur vos arbres. C'est que des fruits hein, qu'on leur cueille d'habitude. Il y a des fleurs sur vos arbres. Vous voyez bien, la vie ressuscite. La résurrection, vous pouvez au moins fêter ça, non? Dans un culte. C'est naturel, ça. Pas. Il va y avoir la foudre. Je leur ai expliqué comment je faisais descendre la foudre. Pas comment je faisais descendre la foudre, je leur ai expliqué comment mon frère Bruno faisait descendre la foudre en faisant des géricots. Ils m'ont dit, expliquez-nous cette histoire de géricots. Bon. Bon, allez, au revoir, père. On est content de vous revoir, tout ça. Très bien. J'ai dit, bon, ben, à demain. On se verra bientôt. Ah, oui, bon. La messe de Pâques n'était pas là. Le lundi de Pâques, il neige. Il fait froid. Le mardi, il gèle. Le mercredi, il dit au Seigneur, franchement, Seigneur, il fait froid. J'en ai marre, j'ai pas l'habitude d'avoir froid comme ça. C'est Pâques, hein, tu es prié de me. Et puis il me dit, non, c'est toi qui me l'as demandé. Pendant ce temps, tout gèle. Ils n'auront pas un seul fruit cette année. Pas un. Faut pas leur dire. Mais c'est pour montrer. C'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer que c'est une loi naturelle. Et c'est le mystère de la résurrection qui a fait ça. À ce moment-là, la nature n'obéit plus. Si on respecte plus la nature n'obéit plus. C'est pour ça qu'on emmène ses enfants à la messe, parce que c'est naturel d'avoir un culte. S'il ne veut pas aller à la messe, il ira à la synagogue, je m'en fous. Il ira à la mosquée, il ira où vous voulez. Mais il doit passer une heure, il va faire un culte hebdomadaire à Dieu. Tu ne veux pas aller à la messe? Très bien, voilà, ici. Dans un rayon de 500 mètres à Montpellier, tu peux aller à la mosquée, à la main, tu choisis. Coup de pied aux fesses. Et si tu ne vas pas, fais gaffe. Hein, et tu dois obéir exactement à ce qu'on te dit là-bas. Si tu veux obéir à l'imam, parfait. C'est libre. Vous pouvez dire ça au gosse. Vous pouvez l'obliger. C'est une obligation naturelle. Ce n'est pas une obligation de la foi. L'obligation de la foi, c'est de vivre de la résurrection. C'est tout à fait autre chose. Justement, on va y venir. Comment on vit de la résurrection? Ça n'a rien à voir, la foi. Rien. Quelqu'un qui ne fait pas un culte, c'est un site qui est inhumain. Je ne dis pas quelqu'un qui n'est pas chrétien. Je dis quelqu'un qui ne fait pas un culte. L'athéisme, c'est contre l'homme. La bête de la mer et la bête de la terre, c'est contre l'homme. C'est pour tuer l'homme. C'est pas pour tuer le chrétien. Six. C'est pour tuer l'homme. 7. C'est pas pour tuer 8, le Christ. C'est pour tuer l'homme. Donc, nous en étions. L'adoration était la révérence d'amour, l'effacement d'amour du cœur, l'esclavage d'amour. Et enfin, l'amitié, puis enfin l'abandon total de l'épouse à l'amour unique et absolu et universel de Dieu. Ça, c'est naturel, l'intuition. Voyez. La voie de la connaissance, encore autre chose. Non-violence, véracité, honnêteté, absence à l'intérieur de vous de tout trouble, de toute émotion érotique, en pensée, en sensation et dans le corps. Et en permanence. Affabilité. Affable, être affable. Rectitude, pardon, endurance, tempérance, pureté corporelle, intérieure et extérieure. C'est le premier degré de l'hindouisme. Premier degré. C'est le minimum qu'on demande aux hindous. Il y a 8 degrés hein, dans l'hindouisme. Le minimum, ça, que je vais vous lire. Hein? On aurait dû lire ça, samedi soir. C'était quand? C'était pas samedi soir, c'était vendredi soir. Ah oui, à Chavannes, là. J'arrive et je vais vous lire simplement un petit message de Ramakrishna. Intéressant, ce sida. Bon. Deuxième degré. Le croyant doit arriver à un stade où, en permanence, il arrive à ne plus être atteint par aucune forme de souffrance qui pourrait résulter des actions du prochain. Si quelqu'un m'injurie, eh bien, je n'en souffre pas. J'en souffre, si vous voulez, mais je n'en tire pas rancune. Jamais, à aucun moment. J'en souffre pas, je pense là, si vous voulez. Il n'y a pas de réaction semblable. Il s'agit de pratiquer ici la pureté du cœur, le contentement, être tout le temps continuellement content. Contentement continuel. Austérité intérieure, austérité extérieure. Développement de l'intimité profonde du soi. Et enfin, pensée constante du divin. Voilà, ici, il y a une petite ascension qui existe des étapes. Hein. Et le gourou doit vérifier que vous avez atteint ça. Avant de vous faire passer au troisième stade. Au troisième stade. Ah, vous voyez, je ne peux pas vous rendre compte. Au 8, vous allez dire, mais c'est pas possible. Eh bien, ça, c'est naturel. Bon, je fais passer une deuxième feuille pour que vous puissiez faire des exercices de gymnastique du cerveau pour apprendre à écrire les lettres en hébreu, savoir leurs chiffres, savoir leur signification directe, leur signification biblique. Et nous, on continue sur la résurrection, si vous voulez bien. Mais non, sinon je ne peux pas faire la résurrection. Hein?